Actu SF, les podcasts.
Alors, merci à tous d'être si nombreux sur cette table ronde. Alors oui, je vais essayer de parler de la façon la plus inclusive possible, mais c'est plus possible à l'écrit qu'à l'oral, généralement, même si je n'hésiterai pas à dire autrice à la place d'auteur, puisque Francis, vous êtes le seul auteur présent sur scène, donc on va appliquer le genre le plus majoritaire. Voilà, comme ça on entre tout de suite dans le vif du sujet et dans le vif des minorités visibles ou invisibles. Puisque c'est assez intéressant que donc le thème de cette table ronde, c'est la fantasy et la science-fiction, c'est aussi, trois petits points, des minorités visibles. Alors les minorités visibles, nous en avons plusieurs sur cette table ronde, d'autres qui le sont moins, qui sont plutôt des minorités invisibles. La distinction est parfois importante, mais en fait ce qui est important surtout, c'est d'être une minorité. C'est plus ça qui compte. Et mes premières questions vont être autour de vous, Francis Berthelot, Sabrina Calvo et Nnedi Okorafor, sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans un bon roman de science-fiction ou de fantasy en termes de représentation. Qu'est-ce qu'il est important de montrer dans vos romans ?
Dans les nôtres ?
Oui, si vous avez envie de parler de ceux des autres, Francis, allons-y.
Non, je ne lis pas.
Qu'est-ce qui pour vous est important en termes de représentativité ou de représentation? Le mot est un peu compliqué. On pourra revenir sur sa différence.
Moi je représente la minorité gay pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux et celles qui ne sont pas au courant. En fait, il y a eu deux périodes. La première, c'était mon premier roman, et le deuxième, c'était tous les autres. Mon premier roman s'appelait La Lune Noire d'Orion, était un roman qui traitait de la persécution dans une galaxie lointaine, etc., des homosexuels. Donc c'était un bouquin très militant qui est paru en 1980, si j'ai bonne mémoire, et qui a fait splash dans les milieux de la SF française, qui n'en avait jamais autant vu. Et bon, donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, c'est plus la peine maintenant. Bon, il y aura des personnages homo, puis d'autres qui ne le seront pas. Puis voilà, donc il n'y a plus de représentation de cette minorité-là en tant que telle. Sauf peut-être, mais c'est dévié par une métaphore, dans mon quatrième roman, qui est arrivé jusque-là, donc je peux vous le montrer, Rivage des Intouchables. Et... qui traite en gros, métaphoriquement, de l'histoire de la communauté gay, de la répression à la libération, à l'arrivée du sida, la catastrophe, l'effondrement et un espoir de renaissance. Mais pour ne pas parler d'homosexualité, j'ai pris carrément une communauté qui transgressait un autre tabou que le tabou sexuel. Et j'ai opposé deux races, une race avec une peau pigmentée un peu comme les phoques ou les orques, et une race avec des écailles. Et le tabou, ce qui est interdit, c'est qu'il y ait un contact physique entre les deux espèces. Bon, alors évidemment, il y a une minorité qui transgresse ce tabou, on les appelle les transvers, ils sont très mal vus par tout le monde, mais parce que eux, ils trouvent que c'est très bien de toucher l'espèce... différentes. Et puis arrive une maladie épouvantable, évidemment, etc. Ça suit son cours. Donc voilà. Et sinon, j'ai encore, alors parce que ce que ne dit pas ma biographie, je suis devenu musicien, j'écris plus, je suis mort comme auteur, je suis un auteur posthume. Et je suis compositeur de musique de ballet. Alors voilà, j'ai mon deuxième ballet qui est sorti, qui s'appelle Kael et Orient. Et c'est l'histoire du prince Orient qui n'est pas du tout intéressé par les femmes, et en particulier par la princesse qu'on veut lui faire épouser pour rassembler le royaume du père du prince et de la mère de la princesse. Donc comme il veut pas, on le balance dans les flots et il trouve le bonheur dans les bras du démon des eaux qui est donc, alors c'est une double transgression parce
que c'est pas toujours la princesse qui refuse.
Non, non, là c'est le prince. Le prince, il préfère ses copains. Et puis quand le génie, bon, il était prisonnier, donc pour gagner sa liberté, il essaie de le convaincre d'épouser la princesse, le démon des eaux. Et il lui montre ses copains qui s'envoient joyeusement en l'air avec les copines de la princesse. Alors, le prince est dégoûté, mais comme il est attiré par le démon des eaux, bah, il préfère qu'on le jette à l'eau et pof. Une fois arrivé au fond de l'océan, eh ben le génie des eaux le ressuscite et ils sont heureux pour l'éternité ensemble, sous les eaux, loin. Mais il y a, comme je disais, il y a une double transgression, transgression interraciale aussi, parce qu'un démon, ce n'est pas tout à fait...
Un humain.
Un humain, voilà.
Neddy, quelle est pour vous l'importance de la représentation dans les romans, de la représentation des minorités?
So I guess what matters to me is, well, okay, let me start by talking first about my own experience as a reader, because that's really how I started writing these types of narratives. Growing up, I didn't read science fiction. You know, it was because I didn't see representations of myself in these things. Science fiction for me growing up was very cold and white. And so in these worlds, I did not feel that I could even exist, let alone have representations of me. So eventually when I started writing science fiction, and there's a whole story behind why I started writing it, it was really my trips to Nigeria that gave me those ideas to start looking, wanting to see Africa in the future. It wasn't that I was talking back to these narratives that were white and male. It was more that I was telling my story. And I was telling stories of those who were like me and bringing them forward in the future. And so that was just a natural thing. So it wasn't like the foundation of what I do is not classic science fiction. The foundation of what I do is my own culture and my own people.
Oui, alors laissez-moi commencer en vous faisant part de ma propre expérience de lectrice, parce que c'est de cette expérience qu'est venue ma vocation pour écrire ensuite des romans. Quand j'ai grandi, enfant, je ne lisais pas beaucoup de science-fiction parce que je n'y trouvais justement pas de représentation qui me correspondait. Pour moi, à cette époque-là, la science-fiction, c'était un genre un peu froid, un peu insipide. Et puis, surtout, on voyait que des personnages blancs. Donc, je ne m'y retrouvais pas. Je n'existais pas dans ce genre-là. Et puis, enfin, quand je me suis mise à l'écriture à proprement parler, eh bien, bon, il y a toute une histoire à propos de ce qui m'a amenée à écrire. Ça vient de mes racines nigérianes et de cette envie, cette idée d'imaginer un futur, une Afrique un peu futuriste, mais j'y reviendrai plus tard. En fait, quand je me suis mise à écrire, ce n'était pas pour créer une sorte de contre-pouvoir ou une réponse, une réplique à ces récits où on ne voyait que des blancs et que des hommes que j'avais pu lire étant enfant, mais c'était plus pour raconter ma propre histoire et puis en y ajoutant une composante futuriste. Donc les choses sont venues très naturellement pour moi. Et donc le socle de ce que je fais, de mon écriture, c'est pas du tout ancré, enfin c'est pas du tout la science-fiction. Ça vient plutôt de ma propre culture.
David ? Pardon, Sabrina ? Il fallait que je le fasse.
Ouais, c'est pas grave, ça va. Bonjour.
Morgane, tu as un micro là-bas.
Moi, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup d'être là. Il fait chaud. Et du coup, j'ai l'impression de m'endormir dans ce truc-là. Donc, du coup, moi,
la représentation est importante?
Je crois que déjà, il faut se poser la question de quel est le rapport qu'on a à la représentation et quelle est la lecture du monde qu'on a. Moi, comme beaucoup d'autres personnes dans mon cas, j'ai été aveugle à moi-même. Enfin, je me suis rendu aveugle à moi-même pendant très longtemps. Et il était compliqué pour moi de savoir exactement ce que j'avais envie de dire du monde, sachant que le monde m'était pas vraiment accessible et que bon, bah, j'étais dans ces univers virtuels très fermés, dans une culture masculine, blanche et hétérocentrée dans laquelle je baignais à travers ce que je lisais et ce que je faisais, sans trop savoir, même si moi je savais ce que j'étais et ce dont j'avais envie, mais j'ai été très violemment refoulé et très violemment oppressé par mon environnement. Donc je crois que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire ce que je voyais du monde, et ce que je voyais du monde n'était pas terrible, quoi. Et puis au fur et à mesure que j'ai continué à écrire, alors que l'écriture est devenue plus importante dans ma vie et qu'elle est devenue réellement une fonction de mon intimité, et que mes paysages intérieurs ont commencé à prendre de l'importance dans les choses que je racontais. Alors je ne suis pas là pour raconter ma vie, hein, dans mes livres, sûrement pas, mais par contre je suis là pour me servir de mes émotions et me servir des tempêtes en moi pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'être, tout simplement, quoi. Parce que c'est ça que je connais, et voilà, et je parle de l'être, finalement, quoi, et de l'être confronté à l'invisible, et de l'être confronté à l'impossible, quoi. Et donc du coup cette confrontation à l'impossible de moi-même, elle est venue doucement dans mes livres, en fait, au fur et à mesure, et mes bouquins sont commencés à vraiment à parler de cette découverte de moi-même, de cette découverte de l'autre, de cette découverte de la féminité, de cette découverte de ce réapprentissage de la féminité que j'avais pu avoir à un moment dans ma vie et que j'avais volontairement détruit en moi parce que fallait que je me conforme, quoi, et que j'avais pas trouvé la rébellion en moi et la force en moi nécessaire pour pouvoir le faire. Et c'est à travers la littérature que je suis arrivé à ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à représenter des choses dans mon travail qui m'échappaient complètement, et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là que j'ai chassés de mon imaginaire, que j'ai chassés de moi-même, c'est mon peuple, c'est les gens que je dois voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris où j'étais. Et pour moi, c'est lié à l'anarchisme, pour moi, c'est lié à tout un tas de revendications sociales et politiques, de la liberté du corps, de l'appropriation du corps et de la nécessité de pouvoir définir finalement ce qu'est l'identité par soi-même, et de ne pas subir une espèce de conformité d'identité qui est une oppression comme une autre. Qui peut être violente, qui ne peut être pas violente, ça dépend. Enfin, quand je dis que c'est une oppression comme une autre, je ne veux pas minimiser les degrés d'oppression. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui s'exerce. Cathy Hacker a écrit sur le sujet de manière très intéressante. Et donc, du coup, moi, on m'a obligé à avoir cette espèce d'identité construite, très, très, très normée et très cohérente. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du bullshit et qu'en fait... je pouvais désintégrer tout ça, et j'ai désintégré tout ça à l'intérieur de mes livres, à l'intérieur de mes personnages qui sont devenus des parties de moi comme ça, et ça a commencé à prendre forme en termes de transformation, c'est-à-dire que tous mes personnages ont commencé à se transformer littéralement, mon propos est devenu, à partir d'Eliot du Néant, à partir de mon arrivée à la Volte, qui est donc une maison engagée politiquement, ce sont devenus des personnages qui se transformaient, qui passaient à autre chose, qui passaient à d'autres états. Et après, j'ai directement affronté le sujet de la transidentité, du transgenre et de la transsexualité sous la colline, où là je me suis confronté à, et si j'essayais de me présenter, me projeter à moi dans 5 ans, est-ce que je pourrais mettre en scène ce personnage-là? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et dans mon dernier bouquin, Toxoplasma, qui est un livre sur les femmes, j'ai essayé de me dire, j'ai commencé ma transition le lendemain d'avoir mis le point final sur le bouquin. Et ce bouquin, pour moi, était la condition de me dire... Est-ce que les femmes qui s'expriment dans ce livre, cette représentation des femmes que j'ai n'est plus une représentation, mais est réellement une parole qui vient de l'intérieur de moi, en fait, quoi. Et je les laisser s'exprimer, les laisser vivre en dehors de moi, sans les forcer par mon regard d'homme que j'ai pu construire, puis déconstruire. Et du coup, j'ai mis le point final et je me suis dit, bon, ça a l'air de marcher, on va y croire, quoi. Et voilà. Et je me suis lancé là-dedans derrière, et depuis, tout ce que j'écris est conforme à ma vision du monde maintenant, c'est-à-dire un monde fluide. Voilà.
Est-ce que c'est pas intéressant, Neddy, au regard de ce que vient de dire Sabrina, est-ce que c'est pas intéressant de se dire que, bien souvent, et y compris dans les univers de l'imaginaire, il y a eux et il y a nous, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de norme qui est nous, et donc c'est pas tellement nous qui sommes là sur cette estrade, mais est-ce qu'il n'y a pas un nous qui semble la norme et que tout le monde considère comme universel et qu'il faut bousculer? Est-ce que c'est pas important de faire comprendre au lecteur que finalement le eux que nous sommes, c'est aussi eux? cette question de l'universalité des images et des représentations.
Yeah, I mean, what you're saying is that that the minorities are actually the majority, and as writers, how do we write about that? But it's like it's almost like having to speak in two different ways at the same time, because you know the audience that you're speaking to, and you know what assumptions the audience will bring to what you're writing, and you have to write with that in mind. But at the same time, you want to write your story in your voice, you know, addressing things from your point of view. So it's difficult. That's a very difficult thing to do. That's something that for me, when I'm writing something, I don't think about audience. I don't think about those norms. If I have my characters speaking in a certain way because they're from a certain part of the world, for example, in my novel Lagoon, where I had characters speaking in pidgin English, I made a conscious decision to have those characters speak in that way, in that vernacular, without worrying about whether my more international readers would understand that or not. I just put it the way that I wanted to have it done. And so for me, I am very much a type of writer who does not want to explain things and make everybody comfortable. I will just kind of throw the reader into the world that I have created and expect the reader to be able to catch on. Because everybody is a minority at some point, depending on where they are in the world. And that's something that I think needs to be understood by those who are in the majority, if that makes sense.
Yes.
So, I mean, that's the point of view that I come at it from. I don't feel the need to explain. I don't feel the need to make people comfortable. You know, I think it's more, that's the reader's job. Yeah.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les minorités sont aussi la majorité, parfois. Et donc, nous, en tant qu'écrivains, comment est-ce qu'on parle de ça ? C'est un petit peu comme s'il nous fallait parler ou s'adresser aux gens de deux façons différentes en même temps. Vous savez, donc, vous savez que quand vous écrivez quelque chose, il va être perçu et reçu par un lectorat et que les gens vont se faire des idées ou vont avoir des a priori, etc. Mais moi, quand j'écris, je ne prends pas du tout ça en considération. J'écris des histoires avec ma propre voix, celle qui est à l'intérieur de moi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, de se détacher de ce regard et de la réception que vos œuvres vont avoir. Moi, en fait, je ne prends pas en compte, je ne pense pas à mon lectorat ni à toutes ces normes qu'on s'attend à nous voir respecter. Par exemple, si j'ai envie, comme dans mon roman Lagoon, de faire parler un caractère en pidgin, donc en anglais créole, une sorte de créole anglais, eh bien je l'ai fait. J'ai pris cette décision de faire parler ces personnages, dans cette langue un petit peu dialectale, sans me soucier de ce qu'allait en penser mon lectorat un peu plus international, un peu plus standard, sans me demander s'ils allaient comprendre ou pas. Parce que voilà, c'est comme ça que je veux que les choses se fassent. Je suis pas, j'estime que c'est pas mon rôle en tant qu'écrivain d'expliquer les choses au lecteur ou de rendre les choses confortable ou facile. Moi, je préfère plutôt parachuter mes lecteurs dans des univers ou dans des histoires. Et puis, je pense aussi que tout un chacun ici va un jour ou l'autre être dans la position d'une minorité à un moment. Et donc, voilà, je pense que on n'a pas expliqué au lecteur les choses. Je crois que c'est à lui de faire ce boulot-là.
Francis, bien sûr.
Écoute, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit, et ça me renvoie directement à quelque chose dont je voulais parler et que je ne savais pas comment introduire. Alors merci beaucoup. C'est moi j'ai le sentiment de plus en plus que je suis une minorité à moi tout seul. Et c'est vrai, et c'est probablement parce que j'ai une structure de base qui est schizoïde et qu'il y a un moment où le monde devient devient pour moi une vitre. Hein, je suis entouré par une vitre sur laquelle sont projetées les images des gens, mais moi je suis tout seul face à cette espèce d'agglomérat de visages, de paroles, de choses. Et puis je pense que je suis de plus en plus cinglé. Honnêtement, je pense qu'avec l'âge, c'est de pire en pire. En plus, j'ai perdu mon copain l'année dernière et ça ne m'a pas arrangé du tout. Mais déjà avant, dans l'avant-dernier roman de mon cycle, Le rêve du démiurge, qui s'appelait Carnaval sans roi, le personnage central était interné dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce que il avait été envahi par 5 âmes différentes, donc son cerveau était un champ de bataille entre ces 5 âmes, et lui-même était réfugié tout au fond des mers. Alors de temps en temps, il y avait un chapitre qui donnait son discours intérieur. Et alors, le chapitre au début était en tout petit caractère, et puis de partie à mesure qu'on le débarrassait d'une de ses âmes, parce que le but c'était d'arriver quand même à le restaurer en tant qu'être autonome, les caractères devenaient de plus en plus gros jusqu'à ce qu'il parvienne à s'exprimer vraiment en tant que lui-même. Et c'était d'autant plus difficile pour lui que son pire ennemi était enfermé, enfin l'âme de son pire ennemi était enfermée dans son cerveau. Donc,
pas pratique.
C'était pas facile du tout.
Sabrina, est-ce que je suggérais en posant la question en premier à Neddy, c'est est-ce que au moment où, enfin, on a tous lu des romans où le personnage ne nous ressemblait pas du tout? Et on n'a eu aucune difficulté à s'identifier, ou en tout cas à suivre les aventures de ces personnages qui ne nous ressemblaient pas du tout. Donc quand on entend beaucoup, et c'est ce qu'on entend particulièrement aux États-Unis, mais on l'entend ici aussi parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, quand on entend dire « Oh non, mais la représentation, les minorités, faire des personnages noirs, faire des personnages transgenres, faire des personnages homo, c'est une question de mode, c'est juste pour être dans le politiquement correct. » Est-ce que c'est pas quand même le moment de dire aux gens qui ne sont pas les minorités, nous, on n'a eu aucune difficulté à se projeter dans les histoires où vous étiez représentés. Pourquoi est-ce que vous auriez des difficultés à vous projeter dans les histoires où nous sommes représentés ?
Ouais, alors c'est un très 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 intéressant sujet. Moi j'ai déjà eu des remarques d'éditeurs quand je voulais mettre en place des personnages transgenres, c'était il y a déjà quelques années de ça. Hein, on me disait, on va pas s'identifier. On va pas y arriver, on va pas comprendre, on va pas s'identifier. Et c'était très compliqué pour moi d'essayer de défendre ça. Et souvent, les personnages transgenres dans la littérature sont relégués au rang de sidekick, même si des fois, c'est des sidekicks qui sont plus importants que les autres et qui deviennent centraux au bout d'un moment, comme par hasard, comme par fascination. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille de lire cette BD de Neil Gaiman, qui est Game of You de Sandman, qui est peut-être le 5e ou 6e tome de Sandman, où il y a ce personnage de transgenre qui s'appelle Vanda, qui est un personnage formidable et qui, au début, est un personnage secondaire et qui en fait devient le point central de l'intrigue, mais pas du tout du moteur de l'intrigue, plutôt de l'émotion de l'intrigue en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que je me suis dit peut-être que ce qui nous manque, c'est le conduit par lequel on peut établir une remise en cause de la normalité et que ce soit une bonne chose. C'est-à-dire que si on cherche à écrire pour renforcer une idée préconçue de la réalité ou pour simplement peindre une réalité à travers les yeux du réel qu'on a déjà, c'est-à-dire de dire bah, je vais découvrir un monde fantastique mais ça va être exactement avec les mêmes yeux avec lesquels je vois le monde dans lequel on vit, pour moi ça n'a aucun sens. Donc on est obligé de chambouler les gens qui nous lisent, on n'a pas le choix en fait, on est obligé d'aller là, mais par contre on peut tenter de créer à un moment donné, de dire vous voulez vraiment ça voir ce qui se passe en nous, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans cette altérité-là, quoi, à laquelle vous n'avez pas accès. C'est assez flippant, en fait. Hein. Je veux dire, quand on est quand on est transgenre, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne transgenre de 95% de mon environnement. C'est-à-dire que 95% des gens autour de moi ne connaissent que moi en tant que personne transgenre. Quoi. C'est quand même assez fou. comme histoire, quoi. Et du coup, on attend de nous un devoir d'éducation. On attend de nous qu'on explique aux gens ce qu'on est et pourquoi il faudrait pas qu'ils nous détestent, en fait, et pourquoi il faudrait qu'ils nous considèrent comme des êtres humains normaux, en fait, quoi. C'est assez flippant, quand même, comme situation où on se dit, attends, il va falloir que tu me rejettes et il faut que je t'explique pourquoi il faut pas que tu me tues. Parce que moi, des fois, j'en suis là avec des gens. J'ai des gens en face de moi qui veulent m'éradiquer de la planète Terre. Hein. Que je suis une aberration, que je suis une mutante, que je suis à détruire, quoi. Que c'est pas possible, quoi. Et en plus, je coûte cher à la sécu, quoi. Et si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu cet argument, eh, je vais pas payer pour ton opération. Déjà, un qui te parle d'opération. Déjà, tu regardes ce qui se passe chez toi, déjà, avant de regarder ce qui se passe sous ma culotte. De deux, on est 10 000 en France, et je paye pour mon opération, d'accord? Et moi, je paye pour toi, connard, quoi, tu vois? Donc, faudrait qu'à un moment donné aussi, on se pose des questions là-dessus. Donc, il y a un gros souci. On a un gros souci de légitimité à défendre. Et cette légitimité, on l'a fait comment? On l'a fait en insultant les gens? Non. On peut pas. Même si des fois, on est obligé. Parce que des fois, c'est pas possible. Des fois, on a des fous devant nous, quoi. On l'a fait en méprisant, en niant les gens. C'est pas possible non plus. On l'a fait en éduquant les gens. On peut éduquer les gens qu'on aime. Les gens qu'on n'aime pas, c'est chaud d'éduquer. Moi, je veux dire, je vois
c'est
ça.
C'est fatigant.
C'est fatigant. Moi, je vois ça tous les jours quand on me sort du monsieur-dame quand je suis avec quelqu'un, ou qu'on me sort du monsieur, alors que j'ai quand même une paire de boucles maintenant, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez clair, quoi. Non, monsieur. Et est-ce que j'ai envie de reprendre tout le monde comme ça, tous les jours, systématiquement? Est-ce qu'il faut le faire? J'ai des amis qui le font. Moi, je le fais pas parce que j'estime que ces gens n'ont pas d'importance dans ma vie, quoi. Et en même temps. Et donc, il y a une quatrième solution qui est celle à laquelle j'arrive doucement, qui est celle de alors, j'aime pas le mot d'empathie parce que c'est un mot qui a servi à toutes les sauces aujourd'hui politiques pour pouvoir se dire oui, mais il faut être empathique avec les populations qui souffrent, avec les minorités, machin. Mais en même temps, cette espèce de communication de l'émotion à un niveau très brut, très sincère de ce qu'on est, de confiance et d'honnêteté, je pense que ça désarme beaucoup de gens, en fait. Et je pense que ce désarmement, et j'utilise le mot de désarmement sciemment, je pense que ce désarmement, il est hyper important, notamment face à un homme. Hein. Forcément, là, le mec, il est là, bah écoute, bah tu le désarmes, quoi. On en est là, hein. Et parce que pour les hommes, surtout, je veux pas stigmatiser les hommes, hein. C'est juste que pour les hommes, les transgenres, c'est compliqué. Parce que ça remet en cause le pénis, la suprématie du pénis, et souvent, pour ces gens-là, le pénis, c'est tout. C'est la structure même de l'univers, quoi.
C'est pour ça que ça va si mal.
Ouais. Donc, quand j'utilise le mot de désarmement...
Donc, pardon, quand j'utilise... messieurs, pardon.
Voilà, non, mais je suis désolé, je veux pas stigmatiser, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je viens de là aussi, il y a plein d'hommes géniaux dans ma vie et tout. Donc, je veux dire, c'est pas ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en termes structurels, le sexisme internalisé, le sexisme structurel, il existe et il est basé là-dessus. Et les transgenres, ils se confrontent à ça systématiquement. Et je parle des gens qui veulent pas nous voir, hein. Ils sont là-dedans, quoi. Ils sont dans cette remise en cause et ils pensent pas que ce truc peut être remis en cause. C'est pas possible. Et donc, du coup, le désarmement, il se fait à un niveau émotionnel. Le désarmement, moi j'ai des gens qui viennent me voir après des conférences qui me disent oh, on vous a vu arriver, on se demandait ce qui se passait, quoi. On comprenait pas, et puis d'un coup vous vous êtes mis à parler, et là c'était magique et on a compris, quoi. Et ben moi je me suis dit ok, ben peut-être que c'est ça qu'il faut que je me fasse, quoi. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas de l'éducation qu'il faut que je fasse, peut-être qu'il faut que j'ouvre mon ventre et que je vide tout là, devant vous, quoi. J'ai pas le choix, en fait, quoi. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas, j'en suis là en tout cas.
Voilà. Et toujours pour questionner cette façon dont le public et dont l'électorat, peut-être un électorat pas habitué ou qui a pas envie de se remettre en question, ou en tout cas le électorat moyen et pas forcément celui qui est là, qui est déjà dans une démarche. Mais est-ce que c'est pas étonnant pour des auteurs d'imaginaire de se dire que il y a aucun problème à comprendre que Zorg de la planète Jbul a trois têtes et qu'il a finalement des sentiments quasi humains qui nous ressemblent énormément, ce que tu disais Sabrina sur le fait de changer d'univers et de pourtant retrouver exactement les mêmes visions. Est-ce que c'est pas étonnant de se dire que on accepte des univers et des mondes incroyables quand on lit de la science-fiction et de la fantasy, et que à côté de nous, on va se dire à la personne noire, ah mais c'est étonnant ce qui se passe avec tes cheveux, ou à la personne transgenre, ah mais tu es sûr que c'est important que tu fasses comme ci ou comme ça. Voilà, est-ce qu'on n'est pas plus tolérant à l'égard des mondes imaginaires que l'on lit qu'à l'égard du propre monde qui nous entoure? Nedi.
Me? Okay.
Et après Francis.
It's very broad. I'm like listening and then getting distracted. It's funny that
that speculative fiction and science fiction in particular is so can be so insular in that in one regard you can have aliens and all these strange creatures and readers can identify with them just fine. You know, it's not a problem, but when you're talking about actual human beings, that's where it becomes a problem. I've been trying to figure out what that is all about for quite some time. For example, you know, you can have in a fantasy book the character speaking in Elvish, and everyone is fine with that in Lord of the Rings. And then if you put any kind of other language in there, readers have a hard time picking that up. They're not as open to understanding that kind of language. It's interesting to me, and that's something that I've been aware of for a while. I think that maybe it has to do with when we're talking about the fantastical or the alien, readers will look at it in that way, where they're like, okay, this is part of the story. But when it's human, it becomes personal, and then all those personal societal things kick in. And I play with that a lot in my own work. In my novella series Binti, I was playing with that a lot because, you know, it's about an African girl who goes into space, and so we have this African girl who is in this, and I say African because it's set in the future, and by then, you know, borders have moved around, so really can't call it a country that we can identify with now. But so in this book, you have, it starts off with this character who is the only African amongst Arabs, just to kind of make that easy. So she's dealing with the racial issues that come from that, and then eventually she goes into space and goes to this planet where everyone, like 2% is human beings. And there's no one like her, and then you have all kinds of aliens, and so where you go from dealing with those human issues to these aliens, where you have to have particular places where the atmosphere is a certain way because it's this type of alien, and where she would die if she were to go there. So like there are places that are made for all these different types of people with a capital P. So that's something that I like to play around with, that whole idea. But for me, As a writer, I'm not here to make other people comfortable. I'm not here to explain myself to other people. I'm very much of the belief, I believe in storytelling. I believe in the power of storytelling. So when you tell a story, if it's good enough, no matter who or what it's about, the reader will catch on if it's told the right way. That's like my core belief. So when I have that core belief, I feel like I can tell any story. And no matter what kind of story that is, be it about my own people, be it about aliens, and if it's told well enough, the reader will catch on. And that's a really important thing, because if you're writing about, and the word minority is a word that I don't tend to use often, because I don't see myself as a minority at all. I see myself, as what I am. And I would like others to view me in that way, but I'm not really concerned if they don't or if they can't. You know, they'll figure it out at some point if they read my work. And so that's how I come at these stories. So I believe in storytelling, and then I tell the story that I want to tell from the point of view that I want to tell it, and I hope that the reader will be able to follow along, and that the changes will come when the reader follows along, if that makes sense. Yeah.
Wow, c'est un sujet, une thématique très 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 large. Alors bon, je me laisse un petit peu distraire. Oui, c'est vraiment étonnant que la fiction, la science-fiction, et puis toute la fiction un peu spéculative, est toujours vue comme quelque chose d'insulaire. Le fait que, oui, quand on écrit à propos d'extraterrestres ou de monstres, de créatures bizarres, eh bien, le lecteur n'a pas mal à s'identifier à ces personnages-là. Alors que, quand on choisit de mettre en scène des personnages humains qui sont un petit peu différents, eh bien là, tout de suite, ça pose problème. Un problème sur lequel je me penche depuis un moment. Par exemple, voilà, si vous décidez de faire parler un personnage, de faire parler une langue elfique, comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ça ne pose de soucis à personne. Mais si vous essayez de faire parler une autre langue réelle, je veux dire, dans un de vos romans à un de vos personnages, ben tout de suite les lecteurs vont être moins ouverts à cela. Donc je suis vraiment consciente de ces problèmes-là. Et je crois, je suis pas sûre, mais je pense que en fait, quand on est dans le domaine de la fantaisie, du fantastique, et qu'on dit clairement qu'on parle d'extraterrestres, bien le lecteur n'a pas de mal à accepter la différence, parce qu'il se dit, bon, bah, ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Mais quand ce sont des personnages humains à qui on attribue des caractéristiques particulières, et bien là, tout de suite, il y a quelque chose de plus intime, de plus personnel, un rapport qui va déranger le lecteur. Et le lecteur va tout de suite y voir des dimensions sociales ou sociétales. Et dans Binti, la série Binti, bien je m'amuse un petit peu avec ces problématiques-là, ce phénomène-là. Donc c'est l'histoire d'une femme africaine qui part dans l'espace. Alors je dis bien africaine sans être plus précise, parce que ça se passe dans un futur proche, mais j'ai bien conscience que donc ça se passe 500 ans après notre ère, enfin après la date d'aujourd'hui, mais peut-être que les frontières en Afrique auront pu bouger d'ici là. Donc je ne dis pas exactement de quel pays vient cette protagoniste. Et donc dans le livre, eh bien on suit la vie de ce personnage qui est donc la seule africaine au milieu d'arabes. Et donc, elle est confrontée à tout un tas de problèmes d'ordre raciaux. Et puis ensuite, elle décide de partir étudier dans une université intersidérale, interstellaire, dans l'espace, où il n'y a que 2% d'humains. Donc, elle se retrouve encore, fait partie d'une minorité. Et il y a 0% de personnes comme elle, et il y a par contre beaucoup d'extraterrestres différents. Et il y a d'ailleurs, alors ensuite, des particularités, il y a différents endroits où se trouvent différents types d'aliens. Il y a même des endroits où elle, en tant que humaine africaine, il faut surtout pas qu'elle se rende, parce que ça pourrait être très très dangereux. Donc voilà, la notion de race est vraiment très présente. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, je ne me sens pas un devoir d'expliquer aux gens pourquoi je choisis ce genre de personnages qui sont, oui, qui se retrouvent en minorité. Moi, je crois qu'en fait, enfin, j'ai une croyance profonde en la tradition orale et en la force des histoires, du fait de raconter des histoires. Et je pense que si une histoire est bonne et bien racontée, eh bien là, le lecteur pourra comprendre toutes les nuances et pourra comprendre d'où viennent les personnages, pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Je pense donc que si on a une bonne histoire et si on est un vrai raconteur d'histoire, eh bien, on peut aborder tous les sujets. Et d'ailleurs, je voudrais revenir au terme de minorité. C'est pas un mot que moi j'emploie beaucoup, que je ne l'emploie pas pour moi en tout cas, parce que je ne me vois pas comme une personne issue d'une minorité visible. Je me vois comme moi-même. Évidemment, j'aimerais que les gens me voient aussi comme moi-même, avant tout. Mais si je m'encombre pas trop s'il n'y arrive pas à me voir comme ça, c'est pas grave. Je me dis qu'ils y arriveront bien un jour en lisant mes livres. Et donc j'espère, voilà, que mes lecteurs arrivent à suivre cette quête d'identité en lisant mes livres. Et j'espère que ce que je raconte a du sens pour vous.
En tout cas, Francis est lui-même, Neddy est elle-même, Sabrina est elle-même aussi.
Moi, j'avais...
Oui, Francis.
Oui, j'avais trois remarques à faire à propos de ce qui vient d'être dit. Alors, j'espère que je vais me souvenir des trois. Alors, la première, c'était une histoire qu'on racontait peut-être dans les années 60-70. C'est pas spécialement une histoire drôle, mais je veux dire, c'était une histoire caractéristique. Le type qui disait, mais moi, je suis pas raciste, moi, j'ai rien contre les Noirs. Et on lui disait, oui, mais est-ce que tu accepterais que ta fille en épouse un ? Ah, ben ça, c'est une autre affaire. Donc,
encore assez vrai, malheureusement, Francis.
C'est encore assez vrai. C'est encore assez vrai. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, en écoutant ce qui a été dit, c'est la définition du monstre. Alors, il y a eu un excellent livre, et j'ai oublié l'auteur, évidemment, qui s'appelait « Le monstre dans la science-fiction ». Il distinguait très astucieusement deux types de monstres. Il y a le totalement différent et le presque pareil. Et là, on est dans la zone du presque pareil. Quand on parle du monstre à trois têtes, c'est le totalement différent. Quand on parle de quelqu'un qui est juste d'une autre couleur ou quelqu'un qui est un peu à cheval sur la scène, là, on est dans le presque pareil. Et d'une certaine manière, ça fait davantage peur parce que c'est moins fictionnel. Et la troisième chose, si j'y arrive, c'est extraordinaire, j'en ai oublié aucune. Attends, excuse-moi Georges. La troisième chose, c'est au niveau de l'écriture. Alors je ne sais pas si l'écriture elfique est traduite dans le Seigneur des Anneaux. Elle est traduite parce qu'il y a un livre de Balzac qui s'appelle « La maison d'Unsingen » où le baron d'Unsingen, qui est alsacien, s'exprime avec un accent qui retranscrit d'une manière qui rend ses propos quasiment illisibles. Et ça, c'est très agressant. Moi, je n'ai jamais lu ce livre uniquement à cause de ça, parce que j'ai vu ce personnage intervenir.
Et ce n'est pas traduit.
Et ce n'est pas traduit. Donc, on s'arrache les yeux sur chaque mot.
Mais est-ce que ça correspond pas à ce que dit Neddy sur le fait de ne pas vouloir mettre le lecteur à l'aise, ne pas faire en sorte qu'il soit confortable? C'est-à-dire que finalement, si ce baron a des textes qui sont pas traduits, c'est parce que peut-être que les autres personnages le comprennent pas non plus, ou peut-être que...
Je sais pas ce que Balzac a voulu faire. La comtesse de Ségur fait la même chose, mais beaucoup plus délicatement. Elle met des accents régionaux, etc., mais elle n'en met pas trois tonnes. Là, Balzac, pour le coup... Ouais.
On a un peu tourné autour du sujet, mais je me disais, est-ce que, de toute façon, quand on n'est pas dans la norme, on n'est pas un petit peu alien au reste de l'humanité, mais alien dans le sens... alien qui vient de l'espace. Est-ce qu'on n'est pas tous, quand Francis disait « je me sens tout seul, je me sens unique à moi-même », est-ce qu'on n'est pas tous un peu l'étranger de l'autre ? David, je ne vais pas y arriver. Hein. Sabrina, deux fois.
Arrête, c'est pas grave. Aucune importance. Vous savez quoi ? Moi, je suis fier d'être une alien. Quoi. Je crois que j'emmerde, je pense que j'emmerde la société. Yes. Quoi. Profondément, quoi. Je pense que vraiment, je leur crache. Mais vraiment, non, mais... Yes. Attendez. À un moment donné, j'en suis arrivé à la conclusion que Groucho Marx avait raison, même si c'était un connard, on peut le dire, j'ai pas envie de faire partie d'un club qui me veut comme membre. Et je crois que quand quelqu'un... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je crois que j'ai pas envie de revendiquer le droit d'être comme des gens qui me refusent, quoi. Enfin, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'eux, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ces gens, quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prouver ça avec mon ego? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prouver ça de manière ontologique que j'ai besoin d'être considéré comme une femme? Parce que si cette personne-là ne me considère pas comme une femme, alors d'un coup, ça brise tout en moi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quelque part, je me dis, et ça, c'est par rapport à la portée politique de ce que ça veut dire que de revendiquer par le corps quelque chose d'anormal, entre guillemets, de porter la normalité. Moi, je suis considéré comme une freak par les gens, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Et moi, c'est tout récent. Moi, ça fait 6 mois que je suis en transition, quoi. Donc, je sais pas ce qui va se passer dans un an. Ça me semble complètement aberrant, déjà, de voir. Alors, moi, j'ai décidé de rendre ma transition visible parce que je voulais voir cet état intermédiaire et je voulais voir ce témoignage, ce regard dans les yeux de l'autre pour me dire, voilà, comment est-ce que tu me vois? Est-ce que tu acceptes l'entre-deux? Et est-ce que tu acceptes fondamentalement l'alien, en fait? Est-ce que tu acceptes la différence profonde? Tu parlais de presque pareil. Mais moi, je dirais presque pas pareil, quoi. Et tu vois, presque, c'est encore pire. En jeu vidéo, c'est très intéressant. Quand on essaye de faire des émotions sur le visage des gens avec des images de synthèse, on n'y arrive jamais. On a cette espèce de truc très, très, très fou qui se peint comme ça sur le visage des PNJ. Et on appelle ça ça se retrouve chez les robots aussi. On appelle ça l'Uncanny Valley. La vallée indescriptible, la vallée, uncanny, la traduction d'uncanny, c'est vraiment le mystère.
Indéfinissable. Okay. Indéfinissable. Okay. Non.
Il n'y a pas un nom pour Dieu là qui dit c'est le. Comment tu dis? L'ineffable.
L'ineffable vallée.
L'ineffable vallée, quoi. C'est ça, c'est un terme qu'utilise Lovecraft très souvent. Lovecraft qui, lui, justement, s'est fait une spécialité dans son racisme, de transmettre son racisme dans le côté alien des choses, en disant, voilà, moi, j'aime pas ces gens-là. Et alors, du coup, bah, je vais avoir le même regard sur les monstres, quoi. Mais c'est super intéressant, ça dit tellement de choses sur l'humain, quoi. Enfin, c'est très, très fort comme point de vue. Et je pense qu'on est là, je pense qu'on est, à un moment donné, dans la représentation du corps, dans la représentation politique et dans l'engagement politique face aux choses, de ce qui se passe, même si ça porte des discours contradictoires, quoi. Je veux dire, moi, si je veux avoir le corps que je veux, j'ai besoin d'être médicalisé, quoi. Donc j'ai besoin d'être dans un régime démocratique stable qui me permet d'avoir accès à la pharmacie, quoi. Et alors, c'est quoi, veut dire quoi pour un anarchiste, ça? Ça veut dire quoi? Ça oblige à remettre en cause des choses fondamentales. Est-ce que finalement être queer, est-ce qu'on participe finalement à la fragmentation libérale du monde? Est-ce qu'on participe à la fragmentation, à la mise en mesure du monde? Est-ce qu'on contribue à cette espèce de pantalonnade individualiste, entre guillemets, alors que les gens ne savent pas ce que c'est que l'individualisme? Ça porte tout ça, mais quelque part... On est dans la revendication d'être l'étranger, quoi, et l'étrangère. On est dans la revendication, et à un moment donné, on n'a pas le choix. Moi, je ne peux pas me dire, je suis comme toi qui me rejette, quoi. Je ne suis pas toi. Même si tu sais que je suis toi, et que tu n'as pas envie de le comprendre, et que tu n'as pas envie de l'accepter, moi, je l'accepte, mais je ne le veux pas. Enfin, je le comprends, mais je ne le veux pas, parce que sinon, je vais me transformer en toi, et je vais commencer à voir le monde avec tes yeux, et ce n'est pas possible pour moi, quoi. Et donc, moi, non, je pense qu'au contraire, il faut montrer qu'on est différent, il faut montrer qu'on est soi-même, quoi. Et moi, je serai la première dans un camp de concentration, hein. Enfin, peut-être après certaines personnes encore plus exposées que moi.
Oui, je t'aurais peut-être précédé quand même, hein. Parce que, en particulier. Non, mais parce que, je ne sais pas si tu as lu le livre que Stéphanie a écrit sur le sujet. Moi, en lisant ce livre, j'ai été frappé de voir que la problématique des trans, maintenant, est exactement la problématique qu'avaient les gays. Dans les années 70.
Et la problématique des Noirs depuis une éternité.
Exactement.
Juste.
Dans les années, moi, quand j'avais 22 ans, j'ai commencé une psychanalyse parce que je ne voulais pas être homosexuel. Et 3 ans après, j'ai dit bon, bah, c'est très simple. Désormais, le monde se divisera en deux. Ceux qui m'accepteront comme je suis, et les autres, ils iront se faire foutre.
C'est exactement la même chose.
Alors juste un mot au sujet de ces choses-là. Effectivement, on parle des luttes trans, on parle des luttes gays, on parle des luttes des minorités racialisées, des choses comme ça. Mais il faut savoir un truc, c'est que in fine, c'est le droit de juste réclamer d'être humain, quoi. C'est d'être considéré par comme un interlocuteur et une interlocutrice humain et humaine par la personne qui nous parle. C'est juste ça. Ce que veulent les gens, c'est juste avoir les mêmes droits que les autres, quoi. C'est pas avoir plus de droits ou avoir des privilèges. C'est pas ça. C'est juste être considéré comme des humains. Et combien de fois on a dit que des gens d'une certaine couleur étaient pas humains, qu'ils avaient pas d'âme? Combien de fois on a dit qu'être gay c'était pas naturel et que maintenant on a des gays qui se tournent contre les trans aussi et qui disent c'est pas naturel, quoi. On arrive à des situations ubuesques de mauvaise foi et de positions de privilège, en fait. Donc aujourd'hui, on est dans une position de privilège de se dire, qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que moi, en tant que cis-hétéro blanc, je ne suis pas plus humain que la plupart des gens sur cette planète, quoi? Et est-ce que ce n'est pas moi l'humain, finalement? Et donc la question de l'être humain, de ce que c'est, de ce que ça veut dire d'être humain, elle est centrale, là, quoi. Et je ne suis pas du tout quelqu'un d'universaliste, parce que je comprends la douleur des minorités, la douleur des luttes, et ce que ça veut dire que de réclamer des droits de base. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie de regarder l'autre et de lui dire, mais est-ce que tu comprends qu'à un niveau juste d'humain, tu es une sale merde? Et que tu n'es même pas capable d'avoir accès à ce niveau-là parce que tu es tellement imbu de ta position de normes et de domination que tu n'es même pas capable d'envisager qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi, voire ou autant que toi, quoi. C'est terrifiant, c'est vertigineux quelquefois, en fait. Et c'est que quand on est dans le corps et que quand on est dans cette position de visibilité et de confrontation directe qu'on se rend compte de la déshumanisation totale de ces discussions-là, quoi. C'est flippant. Enfin, je sais pas.
Puisqu'on arrive bientôt à la fin, ça me semblait intéressant pour revenir au livre, et vous allez tous pouvoir aller vous faire acheter ici et vous faire dédicacer les livres des auteurs et autrices présentes. Pour Francis, il faut aussi penser à écouter sa musique. est-ce que c'est pas de toute façon assez intéressant de se dire que le propre de l'auteur de littérature d'imaginaire, c'est d'écrire des personnages hors normes? Est-ce que c'est pas un petit peu de toute façon la base de ce qui se passe dans toutes les littératures qu'on apprécie sur ce festival? Une question ouverte.
By definition or It's see, we're getting to this question of what it is, like defining exactly what it is. I think that in imaginary literature, that can be something that the literature does, but not necessarily. Not necessarily. I know that's something, and I can't really speak for all of imaginary literature. I know for me, I know what I do. I know what I am interested in, and what I'm interested in portraying. And what I'm interested in portraying is tends to be, and I don't like to kind of limit myself, because who knows what I'll write in the future. But I'm very interested in writing the stories of African women, especially in the future. And that's just something that I want to do. I've been listening to our discussions about, you know, about being minorities and needing to be accepted into society, and I can hear the rage, and I feel the same rage, but it's not something that I openly express very often. It's something that I've learned to keep in control, and I usually express it mainly in my stories. It comes out the strongest in my stories, because if I were to speak directly about it, the rage would just be would be just too much, and I don't feel like I would be properly heard. But I think that, and I've often said that science fiction is a very political form of writing. It can be a very political form of writing, because it can take all these issues that we deal with as human beings, and especially if the writer is in tune to these issues, is impassioned by these issues, and kind of throw it back at the reader through a skewed lens, in a way that kind of tweaks it just enough where the reader can, or the whatever, it could be in film or literature, but we're talking about literature, where the reader can address this issue that they're very familiar with, that they've heard about many times, but in a different way. It makes it just strange enough where it becomes new. Because a lot of times these issues that we've been discussing, people can say that we've discussed them to death, and they don't want to hear about it anymore. But one thing about science fiction is it can make it new and different, and kind of come at it in a different way where we can talk about it again in a fresh way.
Oui, alors on en arrive à ce moment où on essaie de définir, voilà, ce que c'est que d'être une minorité. Et oui, c'est vrai que la littérature de l'imaginaire, a un peu par définition tendance à mettre en scène des personnages hors normes, mais je pense pas que ce soit quelque chose de... c'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs je peux pas parler au nom de toute la littérature de l'imaginaire, parce que je vais juste parler de mon œuvre à moi, et d'ailleurs je parle de mon œuvre à l'instant T, mais je sais pas ce que j'écrirai dans quelques années à l'avenir. Moi je m'intéresse beaucoup donc aux femmes africaines, à des personnages, voilà, de femmes africaines, à ce qu'elles pourront devenir dans l'avenir. Et donc j'ai écouté avec attention notre débat à propos de ce que c'est que de faire partie d'une minorité et de ce combat pour se faire accepter. J'entends la rage dans les propos qui sont dits ici, et c'est une rage que moi aussi je peux ressentir. Mais moi je ne l'exprime pas ouvertement. C'est quelque chose que je préfère garder pour moi, pour essayer de de garder ça sous contrôle. Mais par contre, j'en parle dans mes ouvrages comme une sorte de d'exutoire. Parce que si je me mettais à vraiment exprimer comme ça oralement, directement cette rage qui est en moi, ben je crois que ça irait vraiment trop loin et je pense que mon message ne serait pas entendu. Et alors pour revenir à la littérature, à la science-fiction, c'est vrai que c'est un genre littéraire qui est éminemment politique et qu'on peut, à travers ce genre de littérature, aborder beaucoup de problématiques fondamentales à propos de l'être humain. Et surtout si on s'adresse à des lecteurs qui sont déjà un peu sensibilisés à ces questions dont qu'on parle. Bon, je parle de la littérature, mais c'est aussi vrai pour le cinéma de l'imaginaire. En fait, ce que la littérature de l'imaginaire nous permet de faire, et ce qui fait qu'elle est peut-être aussi efficace pour faire passer des messages, c'est qu'elle nous permet d'aborder des thématiques qui sont un petit peu rebattues, un peu galvaudées, mais d'y apporter un regard nouveau, de les prendre sous un angle différent, en ajoutant une dose d'étrangeté qui va permettre de régénérer un petit peu le discours. Et ce qui permet aussi au lecteur eh bien de voir ces problématiques avec un nouvel angle.
Je peux ?
Sabrina, bien sûr.
Je ne sais pas ce qu'il y a de si exceptionnel à penser que la littérature de genre ou d'imaginaire peut porter des personnages hors normes. Moi, je crois qu'il y a surtout un désir de puissance, souvent. C'est surtout des personnages hors normes parce que, wow, c'est des grands généraux, ou c'est des grands aventuriers, ou c'est des gens qui ont des pouvoirs magiques et qui vont changer le monde, machin, etc. Est-ce que c'est ça, être hors normes ? Est-ce qu'être hors normes, c'est être l'élu ? Et on n'en est pas là du tout, c'est pas ça, être hors normes. Au contraire, être hors normes, c'est juste être normaux, quoi. Et and I perfectly hear you when you talk about rage. I think I'm at this exact moment where I realize that rage is not possible as an mode of expression in order to convey something. But at the same time, it's very hard to refrain. I mean, you probably have much more experience keeping quiet than me, keeping calm than me. I'm new to this, you know. ce que je voulais dire sur la littérature politique est très importante en SF.
Tu as traduire ce qu'elle tu viens de dire en anglais.
Oui, j'entends ce que vous avez dit. Yeah, I know. C'est intéressant ce que vous disiez à propos de la rage. Oui, c'est ça, et de cette impossibilité de dire la rage et cette difficulté à réfréner justement la colère qui peut être en nous. Et je pense que vous, Neddy, vous y avez été beaucoup plus confronté. Ça a dû être beaucoup plus dur pour vous parce que bon, moi, je suis un peu, je découvre tout ça.
Je voulais juste dire un truc sur la littérature de science-fiction en tant qu'engagement politique. C'est super intéressant ce qui se passe en ce moment parce que, en tout cas, dans la littérature de l'imaginaire français, qui est un tout petit truc, quoi, certains auteurs et autrices et éditeurs et éditrices tentent d'amener des choses comme ça et on a des levées de boucliers de la part de plein de gens qui disent mais c'est pas politique, sinon ça devient de la revendication, un peu ce qu'on a dans le jeu vidéo où on a des gens qui disent mettez pas de politique dans notre entertainment, mais eux, ils ont pas de problème à mettre des gros trucs de fachos avec des empereurs dans l'espace et qui colonisent des pays, qui détruisent des planètes et qui traitent les gens comme des merdes. Mais par contre, mettre des femmes, alors ça, c'est pas possible, quoi. Mettre des trans, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre qu'aussi, on a un large pan de l'entertainment, de l'imaginaire et compagnie qui est complètement fascisé, quoi. Et que c'est aussi quand on se lève politiquement face à ça, c'est un acte qui est fondamental et on l'a pris dans les dents là récemment en France quoi là-dessus hein, avec la sortie de la ministre qui parlait de il faudrait que la SF s'empare de la notion du travail quand même. Et on était là, on disait what the fuck quoi, mais ouvre les yeux deux secondes quoi, ouvre un livre, je sais pas. Et donc on lui a répondu et on s'est pris une levée de bouclier de la part de plein de gens du milieu en disant mais vous devriez pas, c'est juste une ministre, on s'en fout, faut pas parler l'entertainment, faut pas dire la politique. Non mais non seulement on vous emmerde et en plus on vous on, nous, on vous parle pas quand vous nous parlez de votre space op machin, avec vos vaisseaux machin et tout, et vos empereurs et vos empires et vos trucs et tout. Pourquoi est-ce que vous, vous venez nous faire la morale? Pourquoi vous nous donnez la leçon? En fait, je crois qu'il y a une large part de la littérature de genre et de l'imaginaire qui est de droite et qui supporte pas quand la politique de gauche rentre là-dedans, quoi. Et quand la politique sociale rentre là-dedans. Et ça, il faut bien le dire, quoi. À un moment donné, le côté hors norme de la science-fiction et le côté hors norme des personnages de science-fiction, c'est qu'on représente des gens qui sont dans une volonté de puissance, quoi. Et la volonté de puissance, on sait à quoi ça mène, quoi. Donc, est-ce que le hors norme, c'est pas simplement d'être normal? Et là, ouh, attention. Ouh! Challenge, quoi.
Eh bien, c'est sur ce. Neddy, Francis, Sabrina.
Je vous propose d'aller leur montrer comment vous les aimez avec rage en achetant leurs livres.